Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour chers amis auditeurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du Libre Journal des Économistes, l'émission ultra néo-turbo-libéral sauvage de Radio Courtoisie. Le thème de l'émission d'aujourd'hui est « Guérir la sécu ou l'euthanasier ?» et pour en parler, je serai avec le docteur Patrick de Casanova, qui nous vient de son sud avec un nouveau livre pour rebâtir la sécu aux éditions Liberté Numérique. Et donc c'est autour de ce livre que nous parlerons de ces questions-là. Si vous nous écoutez de midi à 13h30 ce mercredi 15 avril, nous sommes en direct, donc n'hésitez pas à poser vos questions ou à nous faire part de vos commentaires. Nous en sommes toujours très friands. D'abord, vous avez une actualité, Patrick de Casanova, cher docteur, vous êtes désormais ou de nouveau maire d'Ondres. Vous avez gagné au municipal, bravo. Donc, on parlera peut-être un tout petit peu quand même de ça. Est-ce que la campagne a été difficile d'abord ?
Bonjour Olivier, merci de me recevoir. La campagne, ce qui a été le plus difficile en fait, ça a été de rassembler suffisamment de monde pour faire une liste, parce que maintenant c'est extrêmement difficile de trouver des personnes qui veulent s'investir pour une commune, parce que c'est une fonction où il y a beaucoup de coûts à prendre. Et très peu de gratification en fait, donc c'est difficile. Mais bon, nous avons trouvé suffisamment de monde extrêmement dévoué et performant qui ont porté la liste et nous avons en peu de temps en fait, puisque cinq mois avant nous ne nous connaissions pas.
D'accord, oui.
Et en cinq mois nous avons monté la campagne, préparé la campagne. Nous avons fait une campagne extrêmement précise, nous sommes concentrés sur la ville d'Ondres. Et oui, nous avons fait une campagne complètement indépendante, vraiment centrée sur les besoins des Ondrais.
Mais comment pourrait-il en être autrement ?
Ben parce que en France, alors oui. Votre question est très bonne, mais ce qui se passe, c'est qu'en France, la politique pourrit tout.
Oui, bien sûr. Oui.
Voilà, donc j'ai bien dit à tout le monde, nous faisons une campagne indépendante. Et oui, nous sommes une équipe indépendante. Et donc les...
Parce que les autres, ils faisaient campagne sur le revenu universel, sur la guerre en Ukraine.
Non, pas du tout. Mais notre équipe à nous, je voulais bien insister sur le fait que les opinions politiques, ce n'était pas mon problème. Il est laissé au vestiaire, c'est le mot que j'ai utilisé. D'accord, pendant la campagne électorale, ils travaillaient pour rendre, et ensuite, leur seule motivation... il fallait bien comprendre que notre liste ne recevait de consignes de personne, n'était dépendante de personne.
D'accord,
les seules personnes à qui on rendait compte, c'était les Ondrais.
D'accord, oui.
Voilà. Et les Ondrais ont été très matures, hein. Ils ont bien compris le message.
Et alors, est-ce que c'était un message libéral ? Est-ce qu'il y a du...
Je crois que c'est un message de bon sens.
Libéral.
Oui, si vous pensez que le libéralisme c'est le bon sens, on peut dire ça, oui.
Mais c'est un bon sens. Si, c'est ce qu'on défend en voilà. Tout cas, dans cette émission.
C'est un message de bon sens et le message est bien passé.
Vous connaissez sans doute cette phrase d'Alexis de Tocqueville, c'est dans la commune que réside la force des peuples libres. Ouais. Les institutions communales sont à la liberté ce que les écoles primaires sont à la science. Elles la mettent à la portée du peuple, elles lui en font goûter l'usage paisible et l'habituent à s'en servir. Alors, est-ce que vous avez l'intention d'être un maire qui fait fonctionner les institutions démocratiques de sa commune, qui consulte ses citoyens par des référendums sur de vrais sujets.
Dans notre programme, nous avons marqué que nous avons inscrit que nous ferions des référendums aussitôt que pour tous les projets structurants. Voilà. Comme vous avez dit, c'est pas la couleur des bancs, tout ça, mais des aménagements importants de la ville, comme l'aménagement du centre-bourg, l'aménagement du centre de la ville, qui va au-delà du centre-bourg. Le centre de la ville, c'est entre tout ce qui est autour du RD 810, c'est le sud-nord.
Oui.
Le centre-bourg, c'est essentiellement autour de la place.
Oui.
Tous ces projets-là, si on doit déplacer les écoles pour aménager Carrefour, tout ça, tous ces projets-là, bien entendu, seront soumis à référendum.
Excellent.
Et pour revenir tout à l'heure, je pense que dans un pays est très divisé, Ondres est aussi divisé, parce que les partis politiques sont toujours en train de s'agiter, ils n'ont pas encore digéré notre victoire. Donc si on veut unir les gens, il faut qui s'approprient les projets de la commune et que ça devienne leur projet.
Bien sûr, oui.
À ce moment-là, Ondres sera vraiment, les Ondrais seront vraiment libres de gérer leur commune comme ils l'entendent, de manière tout à fait indépendante et vraiment centrée sur l'intérêt des gens.
Très bien. Et puis il y a quelque chose qui me, enfin comme une histoire qui me chiffonne un petit peu en ce moment, c'est le fait que les municipalités sont quand même très très orientées sur l'associatif, le sportif, le festif. Est-ce qu'il y a moyen d'en sortir? Est-ce qu'il y a moyen de faire que
Alors l'associatif, le sportif, le festif, c'est quand même un des fondamentaux de la vie communale. Donc, je pense pas que ce soit nécessaire d'en sortir. Je pense que ce sont au contraire des activités qui sont extrêmement structurantes.
Ben, c'est structurant, mais en même temps, si la grand-mère joue pas au football, enfin, peut-être que son, ou à la balle au pied, peut-être que son petit-fils y joue, mais pas forcément. Enfin, je veux dire, et donc, est-ce que c'est bien normal que ce soit la mairie qui s'occupe de ça? Après tout, il y a des fédérations, il y a des terrains de football, de balle au pied, pardon.
Traditionnellement, ça fait partie des fonctions de la mairie, et donc l'équipe que je dirige...
Mais est-ce qu'il ne faudrait pas en sortir? Je dis pas que vous, dans le mandat qui est le vôtre, là, c'est forcément la question, mais... Est-ce que vous ne pensez pas que, de manière générale, le fait que les municipalités étant privées, finalement, de s'occuper de questions d'équipement, de questions de sécurité, de police, de justice éventuellement, ne se retrouvent pas à n'avoir pour seul rôle que de s'occuper de l'associatif, du festif et du sportif?
Non, la municipalité n'a pas pour seul rôle de s'occuper du festif, de l'associatif et du sportif. Mais dans une commune où les associations sont variées, chaque personne trouve une chaussure à son pied. Donc finalement, le service rendu est à la hauteur des enjeux ou des espérances des populations.
Soit. Bon. Et est-ce que vous avez pratiqué le référendum quand vous étiez déjà maire entre 1995 et 2001?
Non, je n'ai pas pratiqué le référendum.
Bon, d'accord. Bon, écoutez, vous avez l'occasion de vous rattraper.
les circonstances étaient très différentes. Voilà, et si je fais un référendum, j'aimerais utiliser les technologies modernes, c'est-à-dire un petit peu comme en Suisse, puisque les personnes reçoivent leur dossier par voie numérique, par Internet. Ils ont un code pour se connecter, pour voter. Ils ont un mois, par exemple.
D'accord,
et les personnes qui, au bout d'un mois, ne sont pas prononcées, qui souhaitent se prononcer de manière plus classique avec un bulletin dans une urne, la commune met à disposition le dernier dimanche un bulletin et peuvent aller voter.
D'accord.
Donc, j'aime beaucoup le fonctionnement de la Suisse. Et la Suisse...
Moi aussi.
Le référendum à la Suisse, ça marche bien. Alors, comme j'ai dit à mon équipe et à mon équipe, à mes agents, j'aurais dit, bon, le premier référendum, on risque de ramer un peu. Mais quand on sera rodé, ça sera beaucoup plus facile.
Voilà, très bien, voilà. Très bien. Super. pour les actualités, il y a quand même deux petites choses à dire, ça va être très rapide. Il y a Benjamin Bayer qui a été détenu 3 ans en Iran, qui s'est vu rappeler à l'ordre par l'administration fiscale pour ne pas avoir déclaré ses revenus pendant cette période. Ça, c'est quand même étonnant. Alors le fisc a fini par s'excuser quand même, a fini par s'excuser sans doute parce que ce Benjamin Bayer a mis l'affaire sur la place publique. Donc évidemment, il y avait des raisons. Et puis une autre chose que j'ai vue hier ou avant-hier, je ne sais plus. Le gouvernement qui suggère de passer une loi pour limiter la marge des distributeurs d'essence ou de gasoil, passer un certain seuil de prix de l'essence ou du gasoil, alors même que les distributeurs ont baissé leur marge, le pourcentage actuel est même, enfin, en centimes par litre est très faible, et même la valeur absolue, disons, a été baissée, et alors que les taxes représentent nettement plus de la moitié du prix du litre. C'est largement supérieur à 100% de taxes, hein, d'ailleurs, si on calcule comme on calcule habituellement les taxes. Donc, je trouve ça quand même assez osé de la part de Sébastien Lecornu d'aller parler de la marge des distributeurs quand la marge de l'État est de 55% et plus. Bref, mais c'est pas la première fois qu'on s'effraie de ce genre de choses. Alors, passons, non pas aux choses sérieuses, car tout ça est très sérieux. Passons à ce nouveau livre. Alors, vous avez déjà écrit... Je ne sais pas d'ailleurs si Initiative individuelle, prise de risque et responsabilité, La voie pour la sortie de crise, c'était un livre collectif, non ?
C'est un livre collectif, parce que quand je m'occupais du cercle Frédéric Bastiat, nous faisions tous les ans, ou presque, tous les ans, un congrès
Oui.
Que nous appelions. J'oublie un trou
Non,
de mémoire.
d'accord, mais oui.
Voilà, trou de mémoire. Ça me
Oui.
reviendra. Et le week-end des libertés.
Ah oui, bien sûr,
Le
week-end de
week-end
la
des
liberté,
libertés.
oui, j'ai même été conférencier deux fois là-bas. Donc,
Voilà,
bien
vous avez
sûr,
fait des
oui.
conférences là-bas.
Je ne connais que
Week-end de
ça. Ah oui.
liberté. Pendant ce week-end de la liberté, nous invitions en gros 12 conférenciers.
Oui.
Sur 2 jours. Et chaque conférencier avait un thème inscrit dans le thème global. Et donc, cette année-là, nous avons fait un recueil de toutes les conférences
D'accord, oui.
et qui a été publié. Voilà.
Voilà, et sinon, vous avez déjà écrit et je vous avais déjà reçu pour ça, Sécu, comment faire mieux?
Voilà, c'est que
Hein?
comment faire mieux. Alors,
Alors,
je dois dire que le titre de ce livre-là, qui s'appelle Pour
pour rebâtir
rebâtir
la
la
Sécu?
Sécu, alors, c'est Pour rebâtir la Sécu,
Oui.
laissez-nous faire.
Oui,
C'est ça le titre.
d'accord.
Voilà.
Parce qu'on
C'est ça
voit,
le
nous, ce
titre.
qu'on lit, c'est pour
Oui,
rebâtir la Sécu,
voilà.
proposition d'un médecin de
Non.
famille.
Pour rebâtir la Sécu, laissez-nous faire.
D'accord.
Proposition de médecin de famille.
D'accord.
Voilà.
Ah oui, voilà,
Voilà.
d'accord. Donc, ça a
C'est
été,
ça le titre.
la couverture
Et
a été un
voilà.
peu chamboulée. D'accord.
L'important dans le Libellé, c'est le laissez-nous faire.
D'accord, oui.
C'est-à-dire qui est ce nous? Eh bien, ce nous, ce sont les professionnels. Alors les
D'accord. Ah oui.
professionnels dans la santé, ça va
Et
de
les
la.
patients.
Oui, bien sûr, les patients,
Laissez-nous faire, laissez
les
tous.
patients.
Oui,
Alors,
oui. Les infirmiers, tout le monde, enfin.
alors ça, oui, c'est les professionnels de santé.
Oui, c'est
Voilà,
oui, enfin, d'accord, oui,
de la
bien sûr,
santé.
pardon, oui.
Et en gros, les professionnels, ça va des assureurs, au sens large, hein, assurance,
Oui.
mutualité, tout ça, aux professionnels, et les patients, dans le sens où les patients doivent bénéficier d'un plus grand libre choix qu'ils n'ont aujourd'hui. Voilà.
Alors, c'est un gros livre, hein, c'est 400 pages
Voilà.
et plus, très complet. Vous parlez de tout, ça commence par
Néandertal.
les Néandertals, voilà, ouais, on
Oui.
sait que dans les sociétés primitives, il y a déjà de la bienveillance et des soins et de la charité, etc., enfin, et que les choses, que les. Que c'est propre à l'être humain, finalement. C'est pas
Exactement.
le fait de s'occuper de ses semblables et de les soigner n'est pas né avec la sécurité
Non,
sociale.
c'est pour ça.
Oui.
J'ai voulu partir. Alors, j'ai voulu qu'il y ait dans le premier livre, c'était juste un petit paragraphe ou une petite phrase. Je disais, Néandertal soignait les siens. Bon.
Oui.
Et en fait, je me rends compte que pour les personnes qui en France, les gens sont très habitués à la Sécu. Ils tiennent à la Sécu. Pour elles, la Sécu est rassurante, etc. Parce qu'ils la connaissent, parce que bon an, mal an, ils arrivent à se faire soigner. Mais ils croient, ils pensent. Qu'avant la Sécu, rien ne se faisait, rien n'existait, et les gens mouraient faute de soins dans les rues, chez eux, abandonnés, etc.
Alors parfois,
Or,
ils mouraient à cause des soins, mais ça, c'est autre chose, c'est parce que les connaissances
voilà.
n'étaient pas à la
Ah
hauteur, mais
ben,
ça,
il faut
c'est
savoir.
autre chose.
Alors,
Vous en parlez d'ailleurs à travers Louis XIV, Louis XV, etc., mais enfin,
je vais
oui.
rebondir un petit peu
Oui,
là-dessus. Il faut
j'en
savoir
prie,
aussi, ça
oui.
s'appelle les maladies iatrogènes.
Oui, ah
Les
oui.
gens aussi meurent à faute des soins, et puis. Je vais encore me faire taxer. Parfois, les injections obligatoires de
Ah
prétendus vaccins
oui.
sont aussi nocives. Donc voilà,
D'accord, bon.
on
Je ne
fera
suis pas
une parenthèse.
qualifié pour juger, c'est vous le
Voilà.
médecin.
Alors,
D'accord,
rien que pour avoir dit ça, je vais me faire incendier, je le sais, mais bon.
D'accord,
Oui, donc j'ai voulu bien expliquer aux gens qui liraient le livre que l'être humain est un animal social. C'est-à-dire un être social. Il vit en société, il vit en groupe, en équipe. On appelle ça comme on veut, et il ne peut survivre que s'il coopère avec les autres. Et spontanément, instantanément, les êtres humains se portent secours les uns aux autres. Ça existait à Néandertal, avec les soins rudimentaires qu'ils avaient. Ça existe encore aujourd'hui. Il suffit de voir ce qui se passe quand quelqu'un tombe dans la rue, quelqu'un est malade, toujours quelqu'un qui va s'approcher pour lui porter secours. Donc cette propension naturelle de l'être humain à coopérer et à secourir ses semblables, ou à aider ses semblables, ou à rendre service à ses semblables, a été occultée depuis quelques années. Parce qu'il y a des personnes qui veulent montrer que sans la Sécu, point de salut. Or, ce n'est pas tout à fait vrai. Les êtres humains sont
C'est
toujours
même
soignés.
carrément faux. Non. Sans la sécu,
Oui,
point de salut, c'est carrément faux.
sans la
Voilà.
Sécu, point de salut,
Oui. D'accord.
il y a un salut sans la Sécu, oui.
Voilà, c'est ça.
Sans
Oui, oui,
la
oui.
Sécu, telle qu'elle est organisée aujourd'hui en France, voilà.
Oui.
Sans la pro Alors, protection sociale, c'est différent, mais Sécu, c'est un peu particulier, voilà.
D'accord. Alors quels sont les alors non je vais d'abord dire quelque chose, c'est que ce livre est émaillé. Alors vous avez été comme on disait à l'instant président du cercle Frédéric Bastiat des Landes, et vous êtes un grand admirateur de Frédéric Bastiat, et donc le livre est émaillé de réflexions et de citations voilà de Frédéric Bastiat, donc c'est très intéressant, et évidemment que vous mettez en regard évidemment du chapitre de ce dont vous parlez, et donc alors Frédéric Bastiat, je vous laisse peut-être le présenter parce que j'en parle souvent dans cette émission, mais enfin
alors, Frédéric Bastiat,
pour un auditeur qui
alors, Frédéric Bastiat est né en 1801, et il est mort en 1850. Il est mort de la tuberculose, il est mort à Rome, parce qu'on lui avait dit à l'époque qu'il n'y avait pas justement beaucoup de traitements contre la tuberculose. C'était en général, c'était des mesures d'hygiène, on nourrissait mieux les personnes et on leur faisait prendre un air plus sain. Et l'air de Rome était réputé pour être sain pour les tuberculeux à l'époque, donc on lui avait dit d'y aller. Il y était allé, mais bon, il est décédé là-bas. Il est enterré.
J'ai d'ailleurs été
à l'église Saint-Louis
des Français. J'ai pu me recueillir.
J'y suis allé aussi. Ouais. Alors sa vie, on va dire sa vie d'économiste, parce qu'à l'époque, les économistes étaient des personnes qui croyaient en la responsabilité individuelle. Ils croyaient en l'échange libre entre les gens. Ils croyaient en la propriété. Ils croyaient.
Le marxisme n'avait pas encore été inventé.
C'était la même époque. Marx a publié le manifeste communiste en 1848.
Oui, oui.
Et Bastiat a publié ses œuvres en gros de 1845 à 1850.
Je crois que le troisième tome du Capital est paru en 1883, voilà. donc beaucoup plus tardivement. Mais pour dire que à l'époque, c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans Gustave de Molinari dans les soirées de la rue Saint-Lazare. Il y a trois personnages, il y a le socialiste, le conservateur et l'économiste. Et l'économiste à l'époque, ça veut dire le libéral, parce qu'il n'y a pas d'autre manière d'être économiste finalement.
Voilà, à l'époque, Bastiat collaborait au journal des économistes, et les économistes s'opposaient à ce qu'on appelait à l'époque les socialistes.
Ah oui.
Les socialistes étaient partisans de ce qu'on appelle, de ce que Bastiat appelle la spoliation légale, c'est-à-dire que l'État prend, sans leur demander leur avis, les ressources des gens. Et les économistes, économistes et libéral, c'était un peu synonyme à l'époque, ça s'est séparé, les économistes étaient partisans, eux, du libre choix des personnes, du libre choix responsable, etc. Parce que sans liberté, il n'y a pas de responsabilité. Et le fait de se faire confisquer ses ressources, ça fausse complètement le modèle et le fonctionnement de la société. Ça veut dire que ça va très profondément dans les rouages du comportement des êtres humains. Donc à l'époque, Bastiat était collaboré au journal des économistes. Donc sa vie d'économiste a été très courte. Ça a duré 5 ans. Il a publié pas mal de d'articles. Et pas mal de.
Alors, des petites fables passionnantes, très célèbres, disons.
C'est l'État, la loi, ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Ouais. Alors, il y a un texte que j'aime beaucoup de Frédéric Bastiat, c'est. On appelle ça la profession de foi, parce qu'il a été député et il a présidé la commission des finances. Donc, il a été. À l'époque, c'était un suffrage censitaire. Donc, il faisait une lettre à tous les électeurs. Et alors, on regarde la lettre, la profession de foi de Frédéric Bastiat et les professions de foi des politiques aujourd'hui, on ressent quand même qu'il y a une baisse de qualité. Aujourd'hui, c'est. Je parle même pour moi dans ce qu'on appelle la propagande électorale. Moi, je l'aime beaucoup parce qu'il y a un très très bon résumé de sa pensée. Et la lettre aux électeurs Saint-Sauvé, je conseille beaucoup aux auditeurs de Radio Courtoisie et aux autres, s'ils veulent découvrir Frédéric Bastiat, la loi, l'État, ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas, évidemment, ce sont des incontournables.
Ah oui.
Propriété et loi aussi. Vraiment, la lettre aux électeurs de Saint-Sevé, je ne vais pas la révéler parce qu'il y a des surprises qui sont d'actualité. Voilà. Il y a vraiment des choses extrêmement
intéressantes. Et puis il y a évidemment la célèbre pétition des marchands de chandelles ou la vitre cassée, des choses comme ça, dont on a déjà parlé d'ailleurs dans une émission que j'avais faite sur les grands textes de la pensée libérale.
Et donc, pour reprendre Frédéric Bastiat dans ce livre, le Laissez-nous faire repose sur la responsabilité personnelle et la confiance aux gens. Parce que l'État repose sur la défiance. L'État dit les gens ne sont pas capables d'eux. Et moi, État, je suis capable d'eux. C'est faux, parce que les personnes qui forment l'État, ce sont des gens. Donc si les gens, à leur niveau, ne sont pas capables d'eux, je ne vois pas pourquoi les politiciens seraient capables.
Oui.
Donc, mais oui.
Ce que vous dites plusieurs fois dans le livre, d'ailleurs, c'est que voilà. L'État prend de l'argent aux gens pour faire en général moins bien qu'eux.
Oui, et faire leur place voilà, surtout. Et décider, prendre des décisions à leur place.
Voilà, et puis, je pense et puis quand prendre même un petit voilà. peu d'argent au passage quand même.
Voilà, voilà. Je pense quand même que la personne qui est le plus apte à savoir ce qu'elle doit faire de ses ressources, c'est la personne elle-même.
Voilà.
Alors, je tiens beaucoup au terme de personne et pas d'individu. Parce que les fourmis sont des individus, je parle dans le livre d'ailleurs,
bah oui.
Les fourmis sont des individus, les termites sont des individus, qui sont soumises à une autorité centrale, auxquelles elles obéissent avec des phéromones et le reste, et là, il n'y a pas de souci. Nous sommes des personnes. Nous avons une personnalité, nous avons une autonomie, une liberté de choix. Et un des objectifs, justement, de l'État, c'est de nous transformer en individu.
Bon.
Mondialisable, interchangeable, etc. Voilà.
Intéressant, je ne suis pas sûr de changer la manière dont je parle, enfin, l'individualisme, etc. Voilà. C'est des mots qu'on emploie souvent.
Voilà. Et, je pense que.
Enfin, d'accord, mais
il faut,
en tout cas,
ça se discute.
J'en prends bonne note.
Voilà. Voilà. J'aime bien le débat d'idées, ça se discute.
Tout ça. Voilà. Vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie, l'émission s'intitule Libre Journal des économistes. J'ai le bonheur d'être avec le docteur Patrick de Casanove, médecin et maire d'Ondres. Qui a écrit le livre Pour rebâtir la Sécu, laissez-nous faire, proposition d'un médecin de famille. Et le thème de l'émission d'aujourd'hui est Guérir la Sécu ou l'euthanasier. Alors,
c'est un titre assez provocateur. On va dire.
J'ai l'habitude. Alors,
je vous connais, Olivier.
Donc... Je tiens à préciser que c'est la quatrième fois que je vous invite ici.
Ouais.
La première fois, le thème était la médecine malade de la bureaucratie.
Ouais.
La deuxième, c'était peut-on soigner tout le monde? La première, c'était en 2020. En 2022, c'était peut-on soigner tout le monde à moindre coût? Ça, c'est assez basique. Et puis, avec Sébastien Lay, d'ailleurs. Et puis, en 2023, c'était la liberté médicale s'accommode-t-elle d'une politique de santé? Un petit peu provocateur, bien sûr, mais enfin, la question se pose. D'ailleurs, vous dites, votre livre s'intitule donc « Pour rebâtir la sécu, laissez-nous faire », mais page 268, vous écrivez « Il ne faut plus essayer de sauver la sécu ». J'ai essayé d'être fidèle à...
Alors, quand je dis sécu, c'est le modèle que nous avons actuellement.
Bien sûr, oui, voilà. Mais...
Par contre, et je dis à la fin, le modèle que nous avons actuellement, d'ailleurs, il n'a jamais marché, puisque dès le départ, Pinet, je le rappelle aussi, Pinet et Gazier, ministre des Finances, a tiré l'attention sur le fait que les dépenses étaient déjà excessives. Par rapport aux recettes, etc.
Oui.
Et les premières mesures d'économie ont été prises par Gazier quelques années après la création de la Sécu. Donc en fait, ça veut dire que la Sécu telle qu'elle est bâtie aujourd'hui n'a jamais marché. Donc, il faut prendre en compte que la Sécu, en tant que structure technocratique, bureaucratique, administrative, c'est ça qu'il faut changer. Par contre...
Mais vous dites même quand même, vous dites, page 96, vous dites, la destruction de la médecine libérale était inscrite dans la création de la sécurité sociale dès le départ, était inéluctable, elle prendrait du temps, mais elle aurait lieu.
Oui, c'est vrai.
Et ce qui est passionnant.
C'est une réflexion, j'ai eu 34 ans de médecine libérale, peut-être un petit peu plus derrière moi, et c'est une réflexion. Au départ, j'ai été formé par l'université française, je suis un pur produit de l'enseignement public, et donc moi aussi, on m'a expliqué que la sécurité sociale avait bouleversé les mêmes choses, et que les médecins avaient gagné beaucoup avec la sécurité sociale, parce qu'elle avait, entre autres, solvabiliser la demande. Alors, à mon avis, c'est déjà réducteur parce que ça réduisait les médecins à leur côté pécunier. Voilà.
Oui.
Or, pour moi, c'est pas ça la médecine, c'est très différent. Mais enfin, vous avez dit ça dans l'université. La Sécu a solvabilisé la demande. Et donc, à partir de là, il y a eu des conventions et tout ça, et la Sécu, je pensais que la Sécu travaillait en bonne entente avec les médecins. Et or, je me suis rendu compte que pendant 34 ans de médecine, que les libertés des médecins étaient régulièrement battues en brèche.
Oui.
Toutes les lois, tous les décrets, toutes les évolutions qui ont été faites dans l'organisation de la Sécu, structure administrative, ont été faites aux dépens de la liberté des médecins. Et donc, je me suis dit, quand j'ai travaillé sur ce livre, le plus probable, c'est que cette évolution n'est pas tombée du ciel. Tout à coup, un technocrate s'est réveillé en disant « on va détruire la médecine libérale ». Je pense qu'elle était inscrite dans la création de la Sécu administrative. Et il y a des éléments qui ont conforté dans cette idée, c'est que lors de la Révolution, par exemple, ce qu'on appelle les révolutionnaires, ceux qui ont pris le pouvoir, la bourgeoisie qui a pris le pouvoir à ce moment-là, a dit dorénavant, alors je résume, hein, dorénavant, c'est à l'État de faire ça. Ce qui veut dire que 200 ans avant, déjà, les étatistes avaient dit que ce serait le rôle de l'État. Et alors, après, ils n'ont peut-être pas trouvé les moyens techniques ou pratiques de passer à cette évolution-là. Mais quand à la Libération, quand la Sécu a pu se mettre en place, les idéaux de la Sécu étaient extraordinaires. C'était magnifique, les idéaux de la Sécu. Mais l'outil qui a été fait, à mon avis, ne sert pas les idéaux. La preuve, c'est que les gens ne sont pas toujours pas soignés comme il faut. Il y a une attente, tout ce qu'on veut. Mais par contre, ça avait d'autres buts. Et je me suis dit quels pouvaient être ces buts.
Ah, de toute façon, le but n'est-il pas dans le nom? Hein, on parle de la sécurité sociale, c'est la sécurité de la société, c'est pas la santé individuelle ou personnelle, puisque le mot individu vous déplaît. Hein, mais ça s'appelle pas, ou c'est pas la médecine personnelle, c'est la sécurité sociale. Donc déjà le mot est un petit, enfin la locution est un petit peu louche. Alors vous mettez
louche,
d'ailleurs.
Non, mais, non, enfin, pas louche, louche non, mais ça correspond à ce que quand la sécurité sociale a été, c'est Beveridge qui avait posé les fondamentaux de la sécurité sociale en disant tous les risques sociaux. Que ce soit la maladie, le chômage, l'accident de la vie, la retraite, tout ça, les risques sociaux devaient être pris en charge par l'État, la collectivité, on va dire. Donc, dans ce sens-là, sécurité sociale s'explique par l'origine beveridgienne.
Ah non, mais j'entends bien. Bien sûr, enfin,
oui, c'est comme distanciation sociale.
Oui.
Voilà. Éloignez-vous les uns des autres, rupture des liens sociaux. Voilà.
Alors, c'est très intéressant d'ailleurs dans le livre parce que vous mettez en annexe non seulement le CNR, le Conseil national de la résistance, le texte, le pacte signé donc avec l'accord de Gaulle, mais aussi des communistes, etc. Et puis, vous parlez derrière aussi de la fondation de la sécurité sociale. Enfin, il y a en annexe tout le texte de fondation de la sécurité sociale avec les caisses primaires locales, régionales, la caisse primaire, puis les caisses régionales et la caisse nationale, etc. Enfin bref. Et c'est vrai que dans le texte, on sent qu'on est déjà sur un laminoir bureaucratique. Ouais. Voilà, qui va peu
faire
à peu.
Des petits.
Voilà, qui va faire des petits. Voilà, c'est ça.
Ouais. Faire des petits. En fait, c'est important ce que vous dites parce que c'est pour ça que j'ai fini par dire tout était inscrit à la racine. Au départ, la sécurité sociale, c'est, on va dire, de manière un peu simple, substituée aux assurances privées qui existaient déjà. D'ailleurs, pour vivre, la sécurité sociale a confisqué. La trésorerie, on va faire.
Alors, c'est ça, il y a 34 sociétés de mutuelles ou d'assurance, disons, qui ont été nationalisées, rappelez-vous dans votre livre, donc pour plus d'un milliard de francs de primes, ou des choses comme ça, enfin bref.
Toutes les sociétés qui avaient plus d'un milliard de francs de primes ont été nationalisées.
Ça a fait disparaître, on va dire, l'assurance privée.
Ça fait disparaître l'assurance privée, parce que c'est important ce que vous soulignez, parce que ça veut dire que l'assurance privée existait déjà. Il ne faut pas croire que la sécurité sociale est sortie du néant. Les assurances privées existaient déjà, ça veut dire que des privés avaient pensé à protéger leurs concitoyens, leurs semblables, contre les aléas de la vie. Les assureurs s'étaient penchés là-dessus. Il y a Barestin, par exemple, c'est un assureur du 19e siècle qui avait commencé à assurer les entreprises et les particuliers sur les ouvriers, les employés, sur le risque accident de travail. Pour que ça soit traité de manière assurantielle et plus de manière conflictuelle avec un juge. Parce qu'à l'époque, déjà, les patrons se plaignaient des juges et les ouvriers se plaignaient des patrons. Donc, ça a toujours existé. Et Maresté a essayé d'apaiser ça et ça a bien marché. Parce que quand la loi sur les actions de travail, ce type de loi est sortie, la moitié, je crois, je ne vais pas dire une bêtise, il faudra relire mon livre, moitié des gens étaient déjà assurés. Et quand la sécurité sociale est née, une grande partie de la population française était déjà assurée.
Alors, au départ, ils auraient pu, par exemple, considérer avec ce noble objectif, on va dire, que tout le monde soit assuré, uniquement faire ce qu'on pourrait appeler un chèque assurance médicale, disons, quelque chose comme ça.
Ils auraient
qui est déjà de la redistribution avec les défauts de la redistribution, mais en tout cas, ça n'aurait pas interdit aux gens qui étaient déjà assurés de continuer à s'assurer tel qu'ils s'assuraient.
Voilà, c'est ça.
Et ça aurait permis d'étendre peut-être à des gens qui ne pensaient pas à s'assurer, d'étendre le système d'assurance. En fait, ils ont préféré tout rafler.
Donc. Ce qu'on appelle la protection sociale. Disons que au départ, on disait caisse primaire d'assurance maladie, c'était quand même bien, c'était très spécifique.
Oui,
maintenant on dit sécurité sociale, c'est plus vaste, mais la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés. Donc elle n'était pas universelle. Petit à petit, la sécurité sociale est devenue plus ou moins universelle, avec des caisses plus ou moins rattachées et des situations particulières à chaque fois, parce que un des buts de la sécurité sociale, tel que Beveridge par exemple l'a pensé, c'était l'égalité devant la maladie, donc tout le monde est de la même manière. Dans la vraie vie, il y a des caisses différentes.
Avant une époque, j'étais à la, je ne sais plus le début, mais ça se terminait par des travailleurs non salariés des professions non agricoles. En tant que profession libérale.
Agricole,
voilà, j'avais droit à ça aujourd'hui.
C'était différent. Mais alors, il y a des pays qui ont fait des choix différents. Alors, dans certains pays, il y a une caisse qui est une caisse. Alors, soit ça a été fait d'emblée, soit ça a été fait dans l'évolution. Des pays ont réformé leur système de santé et ils ont créé une caisse publique d'assurance ou un système public de soins qui permet aux gens qui ont des difficultés ou qui ont plus de revenus de choisir l'assurance publique ou un système public. Et d'autres dans le même pays peuvent, s'ils le souhaitent, choisir une assurance privée. Donc les deux sont faisables.
Oui.
Donc c'était très ouvert au départ. Hein. C'était
Oui, bien sûr.
Voilà. Alors ils auraient pu faire à côté une assurance nationale. Ils auraient pu faire à côté, comme vous dites, un chèque, ce que Bastien appelle le filet de sécurité. Voilà.
Filet
de sécurité.
Oui.
Mais c'est pas la voie qui a été choisie.
Non, ils ont préféré ne voir qu'une seule tête. Ça leur ressemble. Hein, c'est
oui.
Hélas.
Je pense que c'est le désir de centralisation.
Oui, bien sûr.
Après, il faut connaître quand même que j'ai été élu dans des instances de sécurité sociale.
Oui.
Et il faut quand même reconnaître que ce sont d'excellents professionnels. Ils connaissent très bien leur métier.
D'accord.
L'assurance sociale. C'est très bien leur métier. Mais je dis un petit peu dans le livre, je pense qu'ils sont bridés par les consignes politiques. Et c'est le politique qui commande. Et je pense que si on les laissait travailler, ça marcherait beaucoup mieux.
Alors c'est quoi les dysfonctionnements majeurs de ce système
Alors le dysfonctionnement...
Avant de poser le diagnostic...
Le dysfonctionnement majeur, c'est ce que je viens de dire. C'est-à-dire que les professionnels et les patients ne sont plus libres d'interagir ensemble.
Oui.
Il y a un tiers qui s'est imposé là-dedans, qui s'appelle l'État. Ça veut dire en gros le colloque singulier, qui est la relation privilégiée entre le médecin et son patient,
ou
le professionnel de santé et son patient a disparu. Il y a l'État qui se mêle de ça.
Alors c'est très gênant, parce que vous en parlez dans le livre, c'est nécessairement une relation de confiance qui doit s'établir dans ce cadre-là, pour que le malade dise tout déjà au médecin, par exemple.
C'est la relation de confiance, voilà. Mais c'est sûr que la relation de confiance entre le malade et son médecin ne peut être qu'altérée à partir du moment où il y a un tiers qui se mêle en disant par exemple au patient vous avez droit à ci, vous n'avez pas droit à ça, et au médecin vous pouvez prescrire ci, vous ne pouvez pas prescrire ça. Et donc ça perturbe beaucoup, ce n'est plus une relation contractuelle où le patient et le médecin choisissent dans un cas de se faire confiance, le médecin soignant la personne, quels que soient ses revenus, ses pathologies, et le patient faisant confiance à son médecin. Le patient est libre évidemment de refuser les soins, mais bon, c'est sa responsabilité. Il est libre de suivre son médecin, sa responsabilité aussi. Mais c'est ça qui est important, c'est la relation entre le patient et le médecin. Quand la sécurité sociale, sur la sécurité sociale, chaque année, dit ça, on pourra le faire, ça, on ne pourra plus le faire, ça, je le contrôle, ça, je le rembourse, ça, je ne le rembourse pas. On se rend compte qu'il y a une dérive politique, c'est-à-dire qu'on se rend compte que le politicien achète des voix, des électeurs, par intermédiaire de la Sécu, en fonction de ce qu'il rembourse ou ce qu'il ne rembourse pas. Alors, bien entendu, il ne va présenter ça de manière extraordinairement attractive
pour bien sûr,
les personnes.
Mais en parlant surtout de ce qu'ils remboursent en plus et pas de ce qu'ils remboursent en moins, par exemple.
Alors on va dire, oui, bien sûr, c'est très bien, mais le résultat, c'est que actuellement, la qualité du service soin, au sens général, en France, est extrêmement perturbée. Tout le monde parle des déserts médicaux. Alors, les déserts médicaux, on pense que quand on dit 83% ou 84% du territoire français est soumis au risque de déserts médicaux. Mais il faut savoir aussi que les grandes villes sont touchées par le désert médical, parce que le service et les médecins n'y sont plus. Et le désert médical, c'est aussi le délai d'attente. Quand moi, je travaillais, je faisais en sorte de recevoir les personnes la journée. Alors, quand, si c'était pas l'urgence pour le lendemain de mer, mais toutes les personnes qui avaient besoin de médecins la journée, je les recevais la journée. J'avais de très très longues journées.
Bien sûr, oui. Mais enfin, comme beaucoup de médecins d'ailleurs.
Le service était rendu.
Ah oui.
Maintenant, c'est différent. Mais cette évolution s'est faite parce qu'on a tellement cassé les pieds aux médecins qu'à un moment ou un autre, il dit bon, pourquoi est-ce que je me casserai la tête à travailler davantage avec tous les ennuis que j'ai? Et la formation du médecin a été différente. Beaucoup de choses ont évolué.
Bien sûr.
Ce qui fait que, résultat, maintenant, les médecins, ils pensent à leur vie, à leur vie de famille. Alors, je ne peux pas leur jeter la pierre, bien entendu.
Et d'ailleurs, vous faites la même chose. Enfin, vous avez fait la même chose. Vous avez pris votre retraite. Vous êtes encore jeune.
J'en avais tellement marre des ARS, de la HAS, de la Sécu.
Alors, il faut peut-être décrire. Il y en a beaucoup d'acronymes.
Haute Autorité régionale de santé.
Haute Autorité
de santé, HAS, et Sécurité sociale, SQ. Voilà, parce que tout le temps contrôlé, tout le temps des lois, tout le temps des machins, j'en ai marre.
Alors qu'autrefois, c'était courant que des médecins continuent de pratiquer parfois même jusqu'à 90 ans.
Ça existe encore.
Parce qu'ils aimaient leur métier.
Ça existe encore,
mais
il y a beaucoup de médecins qui jettent de l'éponge. Donc j'ai été un médecin qui a dit je rends les clés. Alors si on m'avait dit que j'allais être médecin coordonnateur, 6 mois avant, j'aurais dit non, pas possible. Et puis finalement, j'ai eu l'opportunité et j'ai été médecin coordonnateur. C'est très très bien passé pendant 5 ans. Les conditions de travail sont différentes. Le soin est différent aussi. La population que l'on prend en charge est différente. C'est très très intéressant. Et après, j'ai pris ma retraite avec 2 ans d'avance. J'ai cherché les cours. Il me manque 8 trimestres, mais bon, c'est pas grave. Donc toujours pareil, à un moment... Ma femme m'a dit, je vais partir à la retraite. En résumé, je lui ai dit, écoute, si tu pars, je pars. Voilà, c'est bon.
Ah oui, d'accord.
Les conditions de travail s'étaient encore dégradées. Particulier avec la Covid. La manière dont on avait traité était une catastrophe.
Parce que votre femme est aussi médecin.
Préciser. Et donc, on est parti à la retraite. Voilà.
D'accord, bien, bon. Alors, profitez-en bien.
Merci.
Écrivez encore des livres. Des livres passionnants. Alors, un message d'un auditeur qui nous dit « Un grand merci à l'intervenant d'avoir précisé la distinction fondamentale entre individu et personne. »
J'y tiens beaucoup. Je remercie cet auditeur, mais j'y tiens beaucoup. Parce que beaucoup de nos détracteurs parlent d'individu. Non.
Oui, alors, je ne suis pas un de vos détracteurs, mais il m'arrive de parler d'individu. Attention désormais.
L'individu égoïste, c'est le leitmotiv de nos détracteurs. Autrement dit, ce sont des gens qui ne connaissent pas.
Ah, mais quand on défend l'individualisme, ce qui est mon cas, on défend l'individualisme pour tous. C'est-à-dire, c'est le fait de considérer l'individualisme, finalement, s'oppose mieux au socialisme que le libéralisme. Au sens où le libéralisme définit la liberté, là où le socialisme définit la société, et ce qui s'oppose à la société, en l'occurrence, c'est l'individualisme. Et quand on dit, je suis individualiste, certains disent ça pour dire je suis égoïste, mais en général, ça veut dire... qu'on accorde la primauté non pas à la société, mais c'est pas la fourmilière qui compte pour nous, c'est la fourmi, si j'ose dire.
Et pas seulement
ma personne, mais toutes les personnes, considérer que les personnes sont plus importantes.
Je vais contester un peu.
Je vous en prie, allez-y, docteur Patrick de Casanova.
Donc moi, comme vous l'avez précisé, je suis j'aime beaucoup Bastiat. Bastia, c'est l'être humain se définit la liberté, la propriété, la personnalité. Ce n'est pas l'individu. L'être humain est un individu doté d'une personnalité. Donc, Bastia définit, ne définit pas le socialisme ou la société parce que la société, c'est l'ensemble des êtres humains et de leurs interactions. Ces interactions peuvent être libres, c'est ce qu'ils souhaitent, à condition évidemment de ne pas porter atteinte au droit naturel des autres qui s'appelle la liberté, la propriété, leur personnalité. Le socialisme est un type de société, qui est une société par essence totalitaire, parce que le socialisme tend à contrôler et de plus en plus contrôler les personnes et tout ce qui lui échappe de contrôler. Si le socialisme ne marche pas, parce qu'il n'a jamais marché, c'est parce qu'il ne contrôle pas assez de choses. C'est ce qui se passe pour la Sécu.
Oui,
la Sécu veut contrôler de plus en plus de choses.
Oui, oui.
Donc, nos détracteurs, justement, utilisent le mot social, société, empathie, solidarité, pour l'opposer à l'individu égoïste. Mais c'est faux, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les êtres humains ne sont pas des fourmis, ce ne sont pas des éléments interchangeables, ce ne sont pas des termites soumises à une autorité centrale. Voilà. Le socialisme voudrait... Alors, je vais encore me faire des ennemis. Hein. Alors, le socialisme voudrait que transformer les êtres humains pièces d'une machine, de la machine technocratique, ou la machine administrative, ou la machinerie sociale, ou un élément un individu dénué de personnalité, de la fourmilière.
Très bien. Alors c'est très intéressant. Vous me parlez du fait que la sécurité sociale désormais s'occupe beaucoup plus de soigner ses déficits que de soigner oui. les gens.
Ouais.
Et alors vous faites la liste des 21 plans de redressement.
Ouais. Je me suis arrêté à 21.
Oui, oui. Voilà, oui. Non, mais, alors on les voit tous, hein, 67, 70, 75, les plans Durafour, Barbaro, Questio, Bérégovoy, Delors, Dufoy, Seguin... Durieux, Drocard, Bianco, Veil, Balladur, Juppé, Barrault, Aubry, Douste Blasi. Je donne pas les dates. Ouais. Enfin, je veux dire, voilà, ils sont là.
Ouais, hein,
et donc, effectivement, et ça continue d'ailleurs, et on continue de nous parler. Ouais. D'ailleurs, vous parlez aussi de cette loi délétère là, qui est en train de passer ou qui est passée, là, qui est pour l'établissement des jeunes médecins, les forcer à aller dans la ruralité. C'est très maoïste d'ailleurs, parce que c'est dans Mao, on voit ça, le fait que les intellectuels des villes aillent faire violence à leurs narines en allant travailler dans les campagnes.
Ça veut dire ce que je disais tout à l'heure, ça veut dire que le socialisme veut tout contrôler. Et donc, à partir du moment où ça ne marche pas, il y a des pénuries, il ne se pose pas la question pourquoi il y a des pénuries.
Oui.
Il se dit, il y a des pénuries, je mets un médecin là, puis de pénurie. Alors que le médecin travaille pas, il s'en fout.
C'est ça, oui, bien sûr. Oui.
Case, voilà.
C'est-à-dire qu'il ne pense jamais à la dimension cybernétique, à la dimension. Les gens réagissent quand on leur interdit déjà de faire quelque chose, immédiatement, c'est libre qui réagit.
Ça veut dire, pour défendre mes collègues, mes confrères médecins, qui travaille de 9h midi, 14h, 17h, en gros, c'est ce que j'ai dit, pourquoi me casserais-je la tête si chaque fois que je sors du moule, je m'en prends plein la figure.
Ah oui.
Donc voilà, pourquoi me casser la tête? Je vais rester avec ma famille, je vais rester... Ça se comprend. La société dans laquelle nous vivons engendre des comportements qui sont parfois des comportements qui sont parfaitement compréhensibles.
Bien sûr.
Justifié.
Ah oui.
Mais qui sont des comportements, on va dire, moins libres. Puisque si le médecin était vraiment libre de sa vie, certains médecins pourraient dire, OK, je travaille 18 heures par jour, 10 heures par jour, 12 heures par jour.
Et on me prend pas tout ce que je gagne.
Je rends service à mes patients, ils sont contents, je sens la journée. Tandis que là, à part des soucis, à part une fatigue et le reste, donc les médecins ont été incités, alors pas directement, mais l'évolution de la profession a fait que les médecins ont été incités à penser à eux, et de toute façon, quand on interroge un médecin, et les vieux médecins disent, de toute façon, ils n'ont pas tort, compte tenu des circonstances, ils pensent à la vie de famille. Et c'est important. Et alors, ce qui est intéressant, vous avez aussi cité les 21 plans auxquels je me suis arrêté, parce qu'après, j'ai dit, il y a un plan par an. Donc, on ne compte plus. Et quand je dis, on va sauver la sécu qui est insauvable. Ce qui veut dire que, vous imaginez un médecin ou un patient qui va chez son médecin. Et le médecin, il va 21 fois chez le médecin. Le médecin donne 21 fois le remède. Et ça ne marche toujours pas. Et le patient continue. Comment est-ce qu'on dirait qu'il est le patient?
Acharnement thérapeutique.
Je ne sais pas si l'acharnement thérapeutique, mais on dirait le patient, il doit quand même changer de médecin.
D'où le titre de cette émission, guérir la sécu ou le thanasier. Je crois qu'il est temps de passer.
Voilà, et là non. Ça fait depuis la création de la sécu, déjà Piné, déjà Gazier, ils avaient dit hop, ça ne marche pas.
Ah oui.
Non. Et on continue. Et alors, on forme les gens à sauver la sécu. Tous les plans que nous proposent les politiques, c'est pour sauver la sécu. C'est pas pour mieux soigner les gens.
Bien sûr.
Pour mettre fin aux pénuries, si vous mettez fin aux pénuries, réponse administrative, clac, clac, je mets un médecin ici. Voilà. Mais le vrai fond du problème, il ne l'attaque pas. Et c'est pour ça que dans ce livre, je voulais traiter le fond du problème. Parce que, alors, il y a des tas de livres qui sont sortis sur la protection sociale en France. Mais à ma connaissance, je ne sais pas tout, mais à ma connaissance, il n'y en a pas beaucoup qui traitent la protection sociale dans le contexte sociétal, on va dire.
Ce
contexte de la société. Souvent, les livres se contentent de proposer des réformes techniques.
Oui.
Par exemple, je divise le territoire français en 400 zones. Chaque zone est avec une instance dans chaque zone qui définit les besoins, les moyens, etc. Bon, ça, c'est une fuite administrative.
Oui, ce qui est le cas des ARS, là, les autorités régionales de santé.
Confier. Mon ami Jacques Garello a appelé ça des préfectures de santé.
Oui.
Et un préfet de santé. Il disait c'est pas un préfet de santé qui va sauver la sécurité sociale ou la protection sociale en France. Donc. Jacques Garello, je salue sa mémoire.
Oui, bien sûr, nous saluons sa mémoire. Jacques Garello, pour ceux qui ne le sauraient pas, est le créateur de cette émission, je crois, en 1993. Ouais. Il est mort en janvier 2025.
C'était lui aussi un fidèle et un très très bon connaisseur de Frédéric Bastiat.
Bien sûr, oui. Et d'ailleurs, il a fait partie des gens qui l'ont redécouvert, puisqu'il faut aussi dire sur Frédéric Bastiat que c'est un auteur qui a eu beaucoup de succès pendant les 4-5 années pendant lesquelles il a écrit avant de mourir de la tuberculose, donc entre 1846 et 1850, on va dire. Ce succès a continué quelques décennies, puis c'est un petit peu éteint, et il a été redécouvert dans les pays anglo-saxons. Il a été redécouvert donc en Angleterre, aux États-Unis, à tel point que Margaret Thatcher ou Ronald Reagan connaissaient bien l'œuvre de Bastiat. Et c'est Henri Lepage, Florin Aftalion et Jacques Garello, je crois, qui, en séminaire aux États-Unis, séminaire animé, je crois, par Leonard Liggio, ont entendu parler de ce Frédéric Bastiat, sans demander c'était quoi, est-ce que c'est un Québécois, le nom sonnant français, donc ils sont allés demander qui était Frédéric Bastiat, et c'est là que dont il était beaucoup question dans ce séminaire, et c'est là que Leonard Liggio, qui était un puits de science, de science historique aussi, et qui a leur expliqué qui était Frédéric Bastiat, et donc depuis 1983, la France redécouvre Frédéric Bastiat, et c'est un auteur extraordinaire. Il a sa rue qui date de l'époque de sa notoriété, une rue qui est entre la rue de Ponthieu et la rue d'Artois, tout près des Champs-Élysées, donc c'était quelqu'un qui à sa mort était très célèbre, mais qui a été oublié, qui est redécouvert, et qui est redécouvert à juste titre, parce qu'on entend souvent dire que les idées libérales sont des idées anglo-saxonnes, mais non, c'est des idées landaises.
L'école libérale française, les physiocrates, etc., est une très très vieille école libérale.
Bien sûr.
Et les gens devraient la redécouvrir. Hein. Par contre,
Turgot,
dans votre émission, il ne faut pas dire de gros mots. Oui. Mais en France, vous avez dit de gros mots. Vous avez dit Thatcher et Reagan.
Voilà. Oui. Ah non, des mots anglais.
Ce sont des.
Ah oui, en France, oui.
On rattache la pensée, parce qu'il y a toujours des gens qui font des raccourcis phénoménaux.
Oui, bien sûr.
Et qui vendent. Thatcher a très mauvaise presse en France, Reagan a très mauvaise presse en France. Donc, si on rattache Reagan et Bastiat ou Thatcher et Bastiat, ils vont même pas aller plus loin. Ils vont sortir la croix et l'ail, tu vois. Donc.
Bien sûr, ce qui est l'occasion de rappeler à nos auditeurs qu'ils sont à l'écoute de Radio Courtoisie, que l'émission s'intitule Libre Journal des économistes, que j'ai la joie et le bonheur d'être avec le docteur Patrick de Cazeneuve, médecin et maire d'Ondres dans les Landes, près de la région dont Frédéric Bastiat était député. Et nous parlons du livre du docteur Patrick de Cazeneuve, Pour rebâtir la sécu, laissez-nous faire, aux éditions Liberté Numérique. Et si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les transmettre au secrétariat de Radio Courtoisie, au 01 46 51 00 85, ou directement par courriel, courtoisie@radiocourtoisie.fr. Où en était-on?
On a 21 plans de redressement et que alors c'est
alors
ça qui montre
les passer en détail, mais
c'est ça qui montre que la sécu est insauvable en fait, parce que on essaie un traitement, ça marche pas, on essaie un autre, et si on ne marche pas, bien on se pose des questions. Donc là, plus de 21 plans et on continue pour sauver la sécu, et l'État est obnubilé par sauver la sécu parce que la sécu le sert, elle sert l'État.
Oui.
Et si, et quand on regarde les difficultés que les Français ont aujourd'hui à se faire soigner, les Français devraient se poser la question, pourquoi l'État veut-il absolument sauver un système qui ne rend pas le service qu'on lui demande?
Oh oui.
C'est pour ça que j'ai dit que les idéaux de la Sécu étaient très bien, mais ils avaient été trahis par les étatistes.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que l'idéal, c'est que tout le monde soit bien soigné. Disons ouais. ça, tout le monde est d'accord. Et voilà. Ensuite, ça doit engendrer une bureaucratie, et ça ne peut faire qu'engendrer une bureaucratie si c'est décidé de façon centralisée et géré par l'État.
Et que les résultats, que les gens sont moins bien soignés ou n'ont pas accès aux soins, c'est un problème.
Et là, il faut réagir. Ouais. Ouais, voilà.
Alors, l'accès aux soins dépend de plusieurs systèmes. L'accès aux soins dépend, on va dire, du système assurantiel qui paie, qui rembourse, etc. Mais ça dépend aussi de l'existence du soin. En France, nous avons des pénurie de médecins, on a aussi des pénuries de médicaments, des pénuries de lits d'hôpitaux ou de l'hospitalisation, c'est une catastrophe. Ce qui veut dire que l'accès aux soins, il y a des endroits où le soin finit par ne plus être disponible. Donc on a, même si on a un système de sécurité sociale ou de protection sociale qui est extraordinairement performant, si le soin n'existe pas, si le lit d'hôpital n'existe pas, si le médecin n'y est pas, si l'infirmière n'y est pas, si le médicament n'y est pas, ça sert à rien.
Et oui, ça peut pas être performant s'il y a tous ces manques.
Et d'autre part, on confond la sécurité sociale n'a été possible, à mon avis, que parce qu'il y a la prospérité économique
évidemment,
qui est arrivée.
Évidemment, c'est
la prospérité économique et le progrès de la science et l'abondance de la production dans tous ces sens.
Bien sûr, mais le problème c'est qu'elle l'amoindrit, cette production, c'est-à-dire que elle la parasite et ce faisant
le système de spoliation légale, comme dirait Frédéric Bastiat, est un système qui est un obstacle à la production performante de services. Alors je dis service, un service peut être un objet, un téléphone portable est un service, un stéthoscope est
un service.
Un médecin rend un service.
Oui, 75% de nos échanges, ou 80%, même, enfin 75%, je crois, sont des services aujourd'hui. Hein, quand on parle
le service, c'est secteur 3. Mais pour Bastiat, le service est différent. L'industrie rend un service. Un produit industriel rend un service.
Sûr, oui, tout à fait,
Et c'est pour ça que quand la France se désindustrialise au profit justement du secteur 3, paraît-il, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Parce que les industriels français ne peuvent plus rendre le service à la population qu'ils devraient. Donc c'est une catastrophe. Il ne faut pas limiter le service au secteur 3. Et donc, pour redire quelque chose, c'est le... On parle beaucoup d'énergie chère, on en a parlé en début d'émission. Le fait que l'énergie soit chère est aussi un facteur péjoratif pour la protection sociale. Parce que les hôpitaux, les médecins, les infirmières, tous ces gens-là ont besoin d'une énergie bon marché. L'industrie qui produit un scalpel, qui produit un IRM, qui produit un scanner, a besoin d'une énergie bon marché.
Oui, donc, vous mettez bien en avant d'ailleurs dans le livre le fait que tout se tient un petit peu de toute façon. On peut s'intéresser à la médecine ou plus largement à la santé, puisque les choses ne sont pas synonymes non plus. Être en bonne santé, c'est une chance. ou d'ailleurs, c'est le fait de faire de un petit peu de sport, etc., enfin, de manger raisonnablement, enfin, d'énormément de choses. Mais il y a des gens qui font tout ça et qui sont quand même terriblement malades. Enfin, disons,
Pour Bastiat, alors si on prend la définition de Bastiat du socialisme, qui est la spoliation légale, tous les partis politiques aujourd'hui de France et de Navarre sont socialistes.
Oui, non, bien sûr, tout à fait. Il n'y a aucun doute.
Pour ça, quand on me demande.
Peut-être un peu moins, quand même, David Lisnard, si je peux me permettre. On est hors de campagne électorale.
Beaucoup de mes amis aiment bien David Lisnard, mais moi, je considère quand même que je suis un socialiste. Voilà. Peut-être un petit peu moins, mais quand même. Voilà. Et donc. C'est pour ça que quand on me demande de quel parti vous...
Il faut toujours voter pour le moins socialiste, de toute façon.
Oui, mais si on en trouve, oui.
Voilà. Alors, je ne l'ai pas trouvé encore,
donc voilà.
Alors, un auditeur nous envoie un long courriel. Alors, bonjour, faut-il soigner ou euthanasier Sainte Sécu? Ce qui est certain, c'est que Sainte Sécu a quasiment euthanasié la médecine en France, surtout depuis 1974, avec une vision de boutiquier qui ne comprend pas que la médecine est en progrès technique permanent. Le progrès des techniques s'accompagne toujours d'une chute des prix, des nouveautés et de gains indirects incomparablement plus importants que les coûts initiaux. La philosophie de la Sécu depuis Giscard est de copier le National Health Service anglais, bien connu pour ses coûts excessifs, sa bureaucratie et son inefficacité chronique. Il en résulte des chasses gardées de groupes de pression appelés sociétés savantes qui protègent les revenus considérables de certains spécialistes dans une organisation de pénurie des soins et une médecine au rabais pour le grand nombre, avec des généralistes de plus en plus dépouillés de leurs responsabilités, avec un coût de consultation inférieur à la moyenne dans l'Union européenne. Réformer ce système, les travaux d'Hercule sont du pipi de chat en comparaison. Il fallait surtout, pour les bureaucrates, euthanasier ce qu'ils croient être un pouvoir médical. C'est l'obsession de l'administration, le pouvoir. Merci, cher auditeur, pour cette...
Il y a beaucoup de choses qui sont vraies, sauf que ça ne date pas, pour moi, ça ne date pas de Giscard, ça date de 45, la sécurité créée. Et Beveridge, alors, le système français a deux inspirations, beveridgienne et bismarckienne. Bismarckienne, ça repose sur les cotisations sociales.
Et on va y venir dans un instant, je vais vous interrompre une seconde, et Benoît va nous passer un bobino, et je vous retrouve en studio immédiatement.
Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 Boulevard Murat, 75 016, Paris.
Voilà, retour en studio. Docteur Patrick de Casanova, vous nous parliez du système bismarckien et beveridgien. Alors, je vous laisse.
Alors, Bismarck est j'en parle dans mon livre, Bismarck est une personne que les personnes qui soutiennent les protections sociales d'État mettent souvent en valeur. Or, quand on regarde la manière... Bismarck, les cotisations, la protection sociale reposait sur les cotisations sociales, les patronats et salariales. Et en fait, Bismarck n'a pas fait ça pour que les travailleurs allemands soient mieux soignés, il a fait ça pour briser toute velléité d'autonomie ou de liberté des travailleurs allemands, que les travailleurs allemands restent bien soumis. Et il disait une phrase que je ne me souviens pas mot pour mot dans son livre, mais à partir du moment où les retraités où les gens sont soignés par l'État, ils doivent tout à l'État, ils ne vont pas se révolter. Il disait une phrase comme ça à Bismarck, donc c'était pas du tout il résume bien le socialisme allemand de l'époque, mais par contre, ce n'est pas du tout pour que les gens soient mieux soignés ou mieux protégés. Et Beveridge a une grande influence sur la sécurité sociale française telle qu'elle a été conçue et telle qu'elle est sortie du mémoire, on va dire, qui s'appelait Les Jours Heureux, parce que les Français, pendant la Deuxième Guerre mondiale, beaucoup ont été réfugiés à Londres. Donc les gaullistes ont travaillé très au contact et de manière très fusionnelle avec les systèmes, les gens qui en Angleterre repensaient le système de sécurité sociale, et donc il y a une grande influence beveridgienne. Beveridgienne, c'est l'impôt. Et donc en France, la sécurité sociale est prise en charge, il y a beaucoup à la fois par les cotisations, mais aussi par des prélèvements obligatoires. Et l'État se mêle de la gestion beaucoup plus qu'en Allemagne, puisqu'en Allemagne, les caisses sont au niveau des Länder,
c'est déjà décentralisé, puisque ça se passe dans les régions allemandes.
Les syndicats patronaux et d'ouvriers qui gèrent leurs caisses, donc c'est différent. Tandis que la France a repris le côté très centralisateur, sauf pour certains cas particuliers, mais très centralisateur de Beveridge. Donc pour l'auditeur a raison dans beaucoup ce qu'il dit, mais je pense que le mal est beaucoup plus profond. Et comme je disais tout à l'heure, la racine du mal pour moi vient de la Révolution française, quand les conventionnels, je crois, ont dit dorénavant, c'est l'État qui soigne tout ça, c'est plus le domaine du privé. À l'époque c'était anticlérical, mais il fallait voir que c'était plus le domaine du privé. Alors, à l'époque ils n'avaient pas les moyens, maintenant ils ont eu les moyens.
Oui, vous citez d'ailleurs un moment une socialiste, là je ne retrouverai pas la page, mais qui dit clairement que il faut lutter contre la médecine libérale.
C'est Madame Cormon.
Voilà, Dormont. Et donc voilà, qui explique que les deux choses. Voilà, elle explique très bien, mais c'est évidemment un point de vue qui nous est un peu étranger, disons.
La citation date d'un peu d'une dizaine d'années, un truc comme ça. Oui. Mais elle est importante parce que elle s'inscrit dans une logique et dans une pérennité de citation. Et cette logique est toujours valable aujourd'hui. On aurait pu changer d'avis en disant
on change
d'avis.
Oui.
Mais non. Cette logique est là. Et ce qui m'étonne quand même, c'est que les syndicats médicaux de médecine libérale n'est pas lutter contre ça, et n'est pas eux compris que la médecine libérale était à détruire dans le système que nous
avons.
Mais
alors, dans ce cas-là, il faudrait justement qu'ils aient cette ambition de détruire la Sécu. C'est le problème, c'est que d'un côté, on a un partenaire agressif, si j'ose dire. Alors, il est agressif malgré lui. Enfin, je ne sais pas si je ne crois pas que la bureaucratie soit profondément méchante. Je pense que elle est cruelle malgré les personnes qui la composent. Disons, c'est à l'avance tel un bulldozer, dans le brouillard et ça lamine tout le monde. Mais il y a que des gens qui s'imaginent gentils à l'intérieur de ce système.
Il doit y avoir quelques-uns qui sont au pilotage.
Ça peut arriver. De toute façon, chez les êtres humains, il y a tout.
L'intérêt personnel. On va revenir sur ce que disait Bastien sur l'intérêt personnel. C'est évident qu'à mon avis, les structures bureaucratiques doivent justifier leur existence et se nourrissent elles-mêmes.
Elles-mêmes. Et grossissent. Elles ont besoin de grossir comme une entreprise grossit. La seule chose, c'est qu'une entreprise grossit.
En
rendant un service toujours meilleur, sinon elle sait qu'elle disparaît, qu'elle fait faillite. Alors qu'une administration, pour grossir, il faut juste qu'elle prenne plus d'impôts, ou qu'elle s'endette davantage. Ou
qu'elle montre aux politiques qui vont voter son budget qu'elle est utile. Donc il faut qu'elle prenne des lois, des règlements, des machins. Pour revenir à ce que l'on disait sur la Sécu, je ne pense pas qu'il faille détruire la Sécu aujourd'hui en France. Pour plusieurs raisons. D'abord,
vous pensez qu'elle est réformable ? Plusieurs raisons, je vous laisse.
Alors, je pense que la Sécu actuelle telle que nous avons, c'est pas réformable, comme l'Europe, c'est pas réformable non plus.
Oui.
Mais par contre, le système de protection sociale intégrant les idéaux de la Sécu est peut parfaitement être mis en place. Et la seule chose qu'il y a, c'est qu'il faut commencer par bien expliquer aux Français ce que sont les idéaux de la Sécu, qui vraiment ils ont en tête que la sécurité sociale actuelle ne rend pas le service attendu.
Oui.
Et qu'on peut ensuite leur expliquer comment faire.
De toute façon, on voit bien que c'est de pire en pire. C'est-à-dire que maintenant, comme les gens n'ont plus de médecins de famille, qu'il y a des déserts médicaux, mais il y a des déserts médicaux aussi parce qu'il y a des déserts scolaires. Quel médecin va aller s'installer dans une ville où il n'y a pas d'école, dans un village où il n'y a pas d'école, mais voilà, on interdit l'instruction en famille, on interdit les micro-écoles, etc. Enfin bref, donc tous ces systèmes, se renforcent les uns les autres.
Ce n'est pas lutter contre les déserts médicaux, c'est médicaliser les déserts. Et donc, pour reprendre ce que vous disiez, je pense que, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des personnes de la sécurité sociale qui connaissent parfaitement la métier d'assurance maladie. Et ce serait dommage de se priver de leur savoir. Je les ai fréquentés, je sais ce qu'ils valent
De toute façon, il ne s'agit pas de supprimer les personnes. Heureusement, tous les experts resteront des experts.
Pense que la sécurité sociale, pour mieux répondre aux objectifs de 1945, doit sortir de la griffe des politiciens. Et donc, ce qui veut dire que
ça n'est pas possible.
Il faut les sortir de là. Oui, ça veut dire que la sécurité sociale.
À partir du moment où vous avez un système comme ça qui est obligatoire, avec des recouvrements faits par les URSSAF, etc.
Donc il faut mettre fin.
Oui.
Il faut que la sécurité sociale, telle qu'elle est, redevienne la caisse primaire d'assurance maladie, avec compétence globale. C'est-à-dire que ça, pas mutuel, un seul assureur, pas mutuel tout ça.
Mais vous préférez pas un système, d'ailleurs, à la fin du livre, il y a aussi un chapitre passionnant dans les annexes, là, c'est une chose dont on parle rarement en général, vous parlez des systèmes d'autres pays.
Oui, c'est moi qui
vous parlez
fait
de la Suisse, de
là-dessus.
Singapour, vous parlez
fait
de,
une conférence là-dessus.
De la Tchéquie, je crois.
J'ai publié une synthèse de ma conférence.
Voilà, les Pays-Bas, et donc c'est très intéressant, parce qu'on découvre que dans d'autres pays, ils font autrement.
La réforme que je vois, c'est qu'on doit rendre l'argent français, parce qu'il ne faut pas oublier que la Sécu a été bâtie sur une spoliation légale.
Bien sûr.
A confisqué aux gens leurs revenus, le travail est devenu, pour travailler, il fallait payer, alors qu'auparavant, ce n'était pas pareil. Donc, et l'URSSAF n'a été pas créée de suite, elle a été créée quelques années plus tard, justement, parce que les recettes rentraient mal. Donc maintenant, l'URSSAF a des prérogatives exorbitantes au droit commun. Donc c'est quelque chose ça a dégénéré. Je pense qu'il faut rendre leur argent aux gens. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit aux gens, vous pouvez vous assurer, ils regardent leur bulletin net, ils se disent, mais non, je ne peux pas.
Sauf que
ce qui compte, c'est qu'on leur a tellement piqué.
Oui, c'est ça.
Avant,
l'argent est déjà parti.
Donc il faut leur rendre. À partir du moment où on leur rend, ils voient que, d'abord, ils mesurent le volume de la spoliation légale, le poids de la spoliation légale, qui n'est pas que financière, hein, qui est aussi légale.
Avec les intérêts, ah, mais c'est déjà faire. Financier, parce que pour un patron qui embauche un smicard, disons, il y a déjà la moitié de ce qu'il dépense qui part.
Mais la spoliation légale, voilà, c'est consiste aussi à empêcher les gens à échanger librement comme ils veulent, avec tout un tas de sous-doux règlements et des codes. Bon. On les spolie de leur propriété ou de leur liberté, c'est la spoliation légale. Et donc, on rend leur argent aux gens. À partir du moment où on leur donne le choix. Vous pouvez continuer à vous assurer à la sécu, vous pouvez continuer ou choisir de vous assurer à des assurances différentes. Et c'est lié par un contrat. Parce que ce qui est important de savoir, c'est que la sécu, actuellement, vous n'avez aucun contrat. Si la loi de finances qui est votée tous les ans à l'Assemblée nationale vous dit « je vous rembourse plus si » et je vous...
C'est comme les retraites, ils décident de ce qu'ils veulent. Vous n'avez rien à dire,
il n'y a pas de contrat. Ouais. Quand vous avez un contrat, si une assurance, on dit toujours « faut lire l'astérisque », peut-être, mais si, si c'est marqué dans le contrat, l'assurance vous couvrira. Personne, aucun politique ne pourra vous dire « votre contrat ». Les politiques peuvent tout dire. Hein.
Oui, c'est le problème.
Et votre contrat marche. Donc, il faut qu'ils aient un contrat. Ensuite, il faut qu'ils aient une caisse. C'est-à-dire une caisse référente. Ça veut dire qu'ils prennent en charge la totalité des remboursements possibles. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait plus sécu et mutuelle. Parce que les Français paient deux fois.
Ils paient sécu mutuelle, ils paient aussi par les impôts, ils paient aussi parce qu'il y a une franchise médicale éventuellement.
Ils paient aussi
parce qu'il y a un endettement qui se crée.
Ça c'est différent.
Donc ils paieront.
Oui. Ils paient une fois la sécurité sociale, alors par leurs impôts, par les cotisations, etc. Ils paient la sécurité sociale. Et ils paient la mutuelle. C'est pas donné la mutuelle. Et ils paient enfin par le reste à charge.
Et puis ils paient aussi d'ailleurs par la mauvaise qualité du service.
Oui, aussi.
Ah oui, non, mais c'est un coût énorme.
Ils paient aussi parce qu'ils n'ont pas accès aux médecins, ou pas accès à l'infirmière, pas accès aux soins, pas accès aux hôpitaux. Donc ça, c'est vrai. Donc ils paient. Ils paient plusieurs fois pour un service qui n'est pas rendu. À partir du moment où vous avez la totalité de votre salaire, pour votre retraite aussi, ça veut dire retraite par capitalisation.
Il y a un énorme problème, encore pour la retraite, un énorme problème de transition.
Alors, transition, ça se passe pas.
Mais peu importe, parlons de médecine aujourd'hui.
À partir du moment où l'on se retrouve, la transition, c'est toujours long, parce que, je le dis dans mon livre, pour passer d'une société de liberté à une société socialiste, c'est facile. Une société de liberté produit des richesses. Donc, le socialisme confisque les richesses.
Évidemment, oui.
C'est pour ça que le socialisme a pu voir le jour, à la fin du 19e siècle, avec la sécurité sociale.
Oui.
Marx et Engels, on les connaît.
Dans
le manifeste du Parti communiste, dans les travaux préparatoires au manifeste, Engels dit « Le capitalisme va engendrer logiquement le communisme. »
Oui, oui. Et doit arriver en Angleterre.
Dans ce sens, ils ont raison. Parce que le capitalisme a engendré le socialisme, parce que dès qu'il y a eu suffisamment à voler, le socialisme a mis de la matière.
Et il a engendré la société. François Guillaume qui a cette excellente phrase qui dit le socialisme est né de l'extraordinaire abondance générée par le capitalisme et de l'incapacité des intellectuels à l'expliquer.
C'est absolument ça, voilà. Et il y a aussi le fait que les échanges libres sont une dynamique. La dynamique des échanges libres, c'est ça qui est important de savoir. Ce qui compte, c'est la dynamique dans les sociétés.
Évidemment, bien sûr.
Si on parle de la Révolution française, la manière dont les bourgeois étaient tenus, n'avaient pas le pouvoir en fait, très peu. C'était les trois ordres qui tenaient la société, c'était figé. Les ordres avaient intérêt à ce que la société reste figée, et les bourgeois, et la puissance dynamique de leur côté, donc. Ils ont fait la révolution. Ils ont dit, c'est pour le peuple.
Oui, oui.
Voilà, ils ont vendu ça comme ça. Et là, c'est pour ça que maintenant, la caste au pouvoir comprend bien qu'il y a une dynamique. Mais c'est pour ça qu'ils s'ingénient à briser cette dynamique.
Et vous pensez que c'est machiavélique? Vous pensez que c'est volontaire?
Il y a quelques années, je ne le pensais pas. Maintenant, oui. J'ai 66 ans.
Je peux pas croire ça. Je pense que si ces gens-là pouvaient, en appuyant sur un bouton, faire que la France soit merveilleuse et prospère, ils le feraient. La seule chose, c'est que ce désir passe après 60 autres désirs, et dans ces 60 autres désirs, il y a le fait de favoriser les potes, etc. Enfin, je veux dire, mille autres choses qui font que la prospérité, évidemment, derrière est oubliée.
J'entends bien votre argument, mais on va revenir au 21 plan de sauvetage. Et quand on voit la manière dont la société française s'effondre, parce qu'elle s'effondre, depuis plusieurs années, quel que soit le gouvernement, si vraiment les politiciens avaient le souci de la France, on n'en serait pas là.
En tout cas, ils devraient au moins prendre conscience, ils devraient se dire, comme les gens vont plus chez le médecin de famille, puisqu'on les a trop embêté, les gens encombrent les services de, d'urgence.
Ça a été dit aussi.
Ah non, c'est dit, mais ils n'en tirent pas les conséquences.
Ils n'en tirent pas les conséquences.
Ou en tout cas, les mauvaises.
En gros, bon, on se trompe une fois, c'est une erreur.
Oui.
On se trompe deux fois, c'est une faute. On se trompe 21 fois ou 30 fois. Il y a quelque chose derrière. Il y a quelque chose derrière. Alors, au début, moi, je ne pensais pas qu'il y avait quelque chose derrière.
Oui.
Je ne pensais pas. Maintenant, je me dis, ouais, peut-être, il y a sûrement quelque chose derrière. Alors, moi, j'en sais rien. Mais pour revenir à la manière dont on peut améliorer le système social français, laissez-nous faire.
Oui.
Ça veut dire que l'on donne.
Le docteur Patrick de Cazeneuve vient de tapoter sur la première de couverture de son livre.
Ça veut dire qu'on rend l'argent aux Français.
Oui.
Les Français choisissent. Et alors, il y a. Trois niveaux. Quand j'ai proposé la première fois, je ne savais pas que ça existait à Singapour. Mais ça existe à Singapour. Premier niveau, les Français font ce que j'appelais le compte épargne santé. Et les comptes épargne temps, tout ça. Donc, ils ont leur salaire complet. Une partie va sur le compte épargne santé, avec lequel ils font face à leurs dépenses courantes de santé.
Donc là, ce que vous proposez, vous, ministre de la Santé, Patrick de Cazeneuve, vous proposez que ce compte épargne santé soit obligatoire.
Alors, dans un système libre, ce n'est
pas
obligatoire.
Non, mais ça ne choque pas. Hein,
mais dans un système tel que nous connaissons en France, oui, c'est obligatoire.
Oui, d'accord, oui, c'est la transition, disons, vers...
La transition, parce que la transition, il faut la faire comme ça. Il faut la faire, on rend d'abord tout l'argent en français.
Oui, oui.
En gros, Patrick de Cazeneuve, président de la République, est élu.
Oui,
le lendemain, les Français se lèvent.
Je n'étais qu'un ministre de la Santé, ou de la médecine. Oui.
Mais
allez, président de la République, allons-y.
Dans un état très centralisé, les directeurs vont dire, ça y est, la grosse tête. Donc... Dans un état très centralisé, comme la France, tellement centralisé que c'est la présidence. Hein.
Ah oui. Vous avez raison.
Voilà.
Oui, bien sûr, oui.
Donc, c'est un petit peu une petite pour détendre l'atmosphère.
Non,
voilà. Je ne sais pas si ça va être détendre vraiment, mais c'est comme ça.
Et vous commencez par Londres, mais vous allez monter.
Non, puis ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas.
Non, bien sûr.
Et donc, le président. En gros, je résume.
Oui, bien sûr. Toutes les étapes.
Il est élu le lundi, le dimanche.
Oui.
Le lundi, les gens ouvrent leurs fenêtres.
Oui.
Le prix de l'essence est à 80 centimes.
Oui.
Le prix des voitures est à moitié prix, 10 000 euros, parce que c'est à plus. Il y a un seul impôt. Et leur bulletin de salaire a doublé.
Mais alors, la dette explose. Mais enfin bon.
Non, la dette explose pas. Non. La dette explose pas.
Bon, d'accord, ok. Bon.
Donc, la dette explose pas.
Bon, parce que très bien, très bien.
Pour les Français qui récupèrent
donc, vous arrêtez de payer les fonctionnaires, du coup.
Non.
La dette explose. Non. Bon, pardon.
Les Français, ce sont les Français qui choisissent librement. Il y a une période de transition pendant laquelle des services changent.
Ah oui.
Il n'y a pas de raison que la dette explose, puisque c'est les Français qui vont payer directement le service. Pour l'instant, l'État leur confisque leur argent pour dépenser là où il a envie.
Ah
là,
oui.
La somme d'argent reste la même, mais les Français dépensent où ils veulent. Et donc, comme tout, autrefois on disait bon père de famille, maintenant c'est pas bien, faut pas dire ça, il faut dire raisonnable.
Ah oui.
Bon sens, tu dépenses de bon sens, tu dépenses pas plus que tu n'as. Il y a aucune raison que 66 millions de Français dépensent plus que ce qu'ils ont. Par contre, l'État, oui, lui va dépenser plus. Donc voilà. Donc, ils ont la première étape, c'est le compte épargne santé. Tout ce qui peut être pris par le compte épargne santé est pris par le compte épargne santé. Ce qui n'est pas pris par le compte épargne santé est pris par le secteur, par le côté assurantiel. Donc, tout ce que ne peut pas prendre le côté assurantiel parce que c'est extraordinairement cher ou autre, alors il n'y a pas grand chose, mais ça pourrait arriver, on peut supposer, c'est pris en charge par ce qu'on appelle le filet de sécurité. Et le filet de sécurité prend aussi en charge les personnes vraiment dans le besoin qui n'ont pas un centime ou pas un sou. On les prend en charge par le filet de sécurité. Comme le filet de sécurité est universel, il est financé par l'impôt parce que l'impôt est universel. L'impôt est fait pour rendre service à tout le monde. Donc, l'impôt a des dénominations précises. Il n'est pas fait pour rendre service d'une catégorie. N'importe qui, à un moment de sa vie, peut avoir un problème quelconque et se retrouver sans rien. Personne ne reste sur le carreau. Toute personne est aidée. Ce financement, c'est par l'impôt. C'est la solidarité nationale. Ce n'est pas les cotisations sociales, ce n'est pas le reste. Dans votre compte épargne santé, c'est un compte à intérêt, évidemment, dont les intérêts sont capitalisés, vos versements sont capitalisés. Si vous consommez peu de soins de santé, alors le compte épargne santé est ouvert à votre famille ou est ouvert à quelqu'un. Par exemple, mon compte santé, je peux l'ouvrir à M. Olivier Mérès. Avec mon assurance, je vois combien je paye, tout ça. C'est ce que ça compte. Donc, je peux couvrir les gens que je veux de ma famille.
D'accord, oui.
Et mon compte épargne santé, si personne n'utilise, les intérêts sont produisent. Si je l'utilise pour me soigner, ben, c'est le but de l'objectif. Donc, en fait, c'est... la santé me coûte 0 euro parce que, au lieu d'être me faire confisquer mon argent, il est sur mon compte, il travaille.
Vous n'aimez pas le principe d'un chèque assurance médicale?
Si, le chèque assurance médicale peut être l'impôt peut
J'ai vu qu'il y avait des pays dont vous parlez là qui.
C'est marqué
qui
sont... là, ah, oui, le oui, chèque assurance sûr, santé. Ah, oui. Le chèque assurance santé peut être fait, il est financé par l'impôt évidemment, c'est une solidarité, ah, oui. Et il peut être donné à des personnes qui sont des revenus un peu justes et modestes, justement pour avoir le système assurant. Quand tu n'es pas santé, assurance santé. Donc on leur donne, pendant une période transitoire, un chèque assurance santé pour qu'ils puissent se couvrir. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas couverts.
Ouais, oui.
Et mais, le reste, quand une personne n'a plus du tout, à ce moment-là, on peut le soigner, évidemment. Le temps que le chèque assurance santé arrive, on va soigner les gens. On va pas les...
Enfin, non, bien sûr, oui, évidemment. Évidemment.
Et, voilà.
Alors, je rappelle que vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie. Mon invité est Dr Patrick de Casanov et on parle de son livre « Pour rebâtir la sécu, laissez-nous faire, proposition d'un médecin de famille ». Voilà, le thème de l'émission est « Guérir la sécu ou l'euthanasier ». Et donc, j'ai une intervention d'une auditrice. Une auditrice qui nous prévient qu'elle a beaucoup de médecins dans sa famille, ouais. Qui dit « Bonjour et bravo, j'avais prévu de basculer sur CNews à midi, mais l'attractivité de cette émission du maire Patrick, quelle culture, raisonnement de haut niveau que je partage complètement. En effet, comme le reste, la médecine et les gouvernements ont détruit la relation malade-médecin, et donc les résultats. » Merci, chère auditrice.
Ouais. Merci, chère auditrice, absolument. Ouais.
Alors, j'ai... Oui, enfin, pardon, vous alliez dire
Allez-y, continuez.
Je disais, ce livre est très complet, donc vous parlez d'énormément de choses, et nous avons abordé qu'une toute petite part de ce qu'il contient. Mais j'ai été scandalisé qu'il ne contienne pas le droit de faire de la publicité, puisqu'on en avait parlé dans une émission précédente. Vous parlez de la liberté des prix, enfin vous parlez souvent de la liberté d'ailleurs, mais je crois que c'est vraiment une question fondamentale, et je crois que les gens ne sont pas assez conscients du fait que plus un secteur est investi par la publicité, plus les prix y sont bas. Ça peut paraître contre-intuitif, parce que dans certains secteurs comme la lessive par exemple, la part du prix du produit consacré à la publicité peut aller jusqu'à 30% parfois, mais néanmoins, comme ces publicités sont là en général pour dire ma lessive est moins chère que la vôtre et la mieux, etc., etc., ça, tout ça fait énormément baisser les prix. Ouais. Et je pense que dans la situation dans laquelle la France se trouve aujourd'hui, c'est une liberté qui serait absolument fondamentale, qui est formellement interdite par l'ordre des médecins créé par Pétain, aujourd'hui, il y a des enfants, c'est horrible, qui sont quasi aveugles et qui doivent attendre, qui sont en cours préparatoire, qui doivent attendre 2 ans d'entrer en CE2, enfin, ou d'être au CE2 pour voir un ophtalmo et être corrigé, etc., etc., parce qu'il y a ces problèmes de déserts médicaux. Si vous libérez les prix et la publicité, il y a 6 ophtalmos qui vont s'installer dans la Creuse et qui disent, voilà, rendez-vous en moins d'une semaine. Alors, évidemment, ça coûte 100 euros, ça coûte 70 euros, je ne sais pas combien, mais enfin disons, on sort effectivement des prix conventionnés, mais quelqu'un qui a un enfant qui pendant 2 ans ne voit rien, ne peut pas lire, etc., ne peut pas apprendre à lire, il s'en fiche de dépenser, même si pour lui c'est beaucoup, il peut s'endetter, il peut taper la grand-mère et le grand-père, je veux dire, pour que le gosse ait enfin des lunettes, et c'est ça le vrai scandale, disons qu'il y a derrière ce socialisme, ce socialisme médical, c'est que finalement, ces situations-là sont, les gens n'ont pas les moyens, surtout les gens qui n'ont pas les moyens d'aller à l'étranger pour se faire soigner, quoi. Oui.
Dans le site, vous avez bien lu ce que j'ai écrit, mais je l'ai écrit de manière générale, c'est-à-dire que quand je dis liberté de prix et liberté de fonctionnement, ça inclut tout ceci. D'accord. J'ai dit dans le.
Vous mentionnez.
J'ai dit pour un désert médical, c'est-à-dire que quand un médecin arrive dans un désert médical, il va proposer un service et le faire savoir. Et donc, si ce service est en rapport avec le prix et si le prix est en rapport avec le service, les gens vont venir le voir.
Évidemment, et les si choses les vont gens, s'ajuster.
Voilà, absolument. Et si d'autres confrères vont se dire, ça marche bien, c'est médical, c'est gratifiant, je soigne les gens, parce que le rôle du médecin, c'est de la gratification du médecin, l'honneur du médecin, c'est de soigner les gens. Moi, je veux être médecin pour soigner les gens et sauver des vies, tu vois.
Oui, bien sûr, donc, évidemment, oui. C'est comme vous le dites, dans un système où il n'y a pas de prix, où il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de l'information du prix, et finalement, on ne peut pas savoir. Vous dites d'ailleurs à un moment, c'est très intéressant, c'est que ça amène, comme vous dites, à une surproduction de voitures électriques et à une sous-production de services médicaux.
Voilà, par exemple,
enfin, je veux dire, parce que effectivement.
Le contrôle des prix devient pénurie.
Le contrôle des prix, donc, les normes, les obligations, et alors, etc. Enfin, toutes ces.
Pour compléter ce que je disais, donc, et le médecin qui, dans sa ville ou dans sa campagne, qui fait 9h midi et qui attend la fin de la journée, donc, couple peut se dire, mais c'est ma vie.
Ah oui.
Il pose ce truc, il arrête de travailler 9h midi, 14h, 16h, il part quelque part, ou dans son cabinet, il dit, je change d'optique.
Ah oui.
Je m'ouvre et je le fais savoir.
Et, c'est ça.
Et je pars dans un désert médical, aux zones de moyenne montagne, et je le fais savoir. Parce que le docteur Machin, mon copain, s'est installé, ça marche bien, je vais l'aider.
Il faut ensemble. Intéresser.
Il y a une dynamique qui
bien
se
sûr,
crée.
Bien sûr, bien sûr. Et il faut dynamique. Intéresser les gens, c'est-à-dire pourquoi
est-ce qu'il y a... Ouais, voilà. Et on sûr, revient ouais. sur le libre choix, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les gens ont les moyens, ils vont récompenser le service. Si le service n'est pas rendu, mais que le choix est libre, ils peuvent changer les caisses d'assurance maladie, mais pas aussi dans les médecins. Ben, c'est pas pénurie.
Bien sûr, bien sûr.
Et je crois que c'est ce que vous avez souligné, la liberté des prix, la liberté de fonctionnement est quelque chose qui est extraordinaire.
Oui, oui.
Malheureusement, en France,
ça marcherait bien dans tous les
la
domaines.
Culture socialiste oui. est telle que la liberté des prix, ça fait peur.
Oui, mais vous voyez, par exemple, reprenons ces six ophtalmos qui viendraient s'installer dans la Creuse, qui feraient de la publicité en disant rendez-vous en moins d'une semaine à tel ou tel prix, etc. Pourquoi une assurance privée ne couvrirait pas non plus
une
ça
assurance,
c'est-à-dire
une,
que c'est absolument,
une assurance oui. privée couvrirait ça ou les comptes épargne santé couvriraient ça.
Voilà, est-ce qu'il vaut mieux qu'un enfant soit corrigé
pour n'importe quelle pathologie.
Non, non, je prenais l'enfant oui. du groupe préparatoire qui
pour n'importe quelle pathologie. Après, ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que ce compte épargne santé, moi je le vois transmissible, parce que c'est l'argent des gens.
Voilà. Oui, d'accord.
La part assurantielle, bon, c'est la solidarité. Une assurance, c'est un système solidaire. Hein.
Ah oui.
Pas oublié. Donc, c'est un système solidaire, alors volontaire, obligatoire, mais c'est un système solidaire par contrat choisi. Et le compte épargne santé, c'est un système qui est un système solidaire, on va dire famille-ami.
Parce que, oui. Bon,
et ce compte épargne santé, si je meurs, mes héritiers en disposent du capital. Ça veut dire que l'argent, qui pour les, c'est pas un puits, un tonneau de Naïade dans lequel l'argent tombe dans un puits sans fond. Il y a cette trésorerie, et l'avantage qu'il y a entre le système assurantiel et le système compte épargne santé, c'est qu'on recrée une trésorerie.
Ah, c'est la même chose avec la retraite par capitalisation.
Absolument,
hein, c'est transmissible.
Et la capitation, ce sont des la capitation fonctionne.
Capitalisation, oui.
Fonctionne. Oui. Donc plus on peut passer avec un petit compte, mais on en a de plus en plus besoin. Et si jamais moi, ma cousine, ma voisine a un problème de santé, je prends dans mon compte épargne santé, si je le veux, et je lui donne.
Vous pouvez la couvrir. Oui,
je peux la dépanner, la couvrir. Après, la manière dont ça se règle, est-ce que c'est une avance, est-ce que c'est un prêt gratuit, ça c'est différent.
Bah,
mais
oui.
Je peux la couvrir.
D'accord.
Et les autres, les comptes épargne, on va dire standard, servent à autre chose. Ils servent à épargner pour la maison, pour la vaisselle, pour ce qu'on veut, pour partir en voyage.
Oui, oui.
Mais le compte épargne santé couvre les dépenses de santé.
D'accord, bon,
et comme
pas,
je suis solidaire
pas.
De mes frères humains, je suis solidaire de mes frères humains, ce compte épargne santé qui m'appartient, il est pour ma famille, puis ma cotisation d'assurance le fait, mais il peut prévoir que je peux en distraire une partie pour aider quelqu'un.
En tout cas, c'est la proposition du docteur Patrick de Casanova, lui président.
Si
ça peut inspirer, voilà,
la sécu, il ne faut pas l'euthanasier. Ah, je suis pas du passé, faisons table rase, c'est pas trop bon ça quand même. Hein.
Ah non, mais ça dépend quel passé.
Voilà.
Du nazisme, on peut faire table rase, par exemple.
Nazisme, enfin, oui.
Non, mais évidemment, je ne l'assimile pas.
Malheureusement, ça peut être totalement fait. Mais bon, c'est pas grave, c'est autre chose, c'est un autre débat. Je reviendrai à votre émission. Je pense pour rebâtir ou euthanasier, je ne me souvenais plus quel était le titre de votre émission. Moi, je pense qu'il faut vraiment le rebâtir. Il y a des choses importantes qui ont été faites, des socles qui sont solides, mais il faut la rebâtir.
Ouais, enfin, vous voulez la rebâtir, mais très, très, tellement différente que voilà.
On reprend les fondamentaux et on reconstruit sur quelque chose de tout neuf. Voilà.
Tout détruit, d'accord. Mais oui. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi séparer le fait de rembourser les salaires des malades, séparer ça du système de soins, non ? C'est-à-dire que ça coûte très cher, cette histoire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui abusent de ça, par exemple, en faisant semblant d'être malade.
Je pense que c'est ce qu'on appelle les fraudes. Alors,
Oui, mais cette fraude-là, alors, la fraude au salaire, finalement, elle est énorme comparée à la fraude aux soins. C'est assez difficile de faire semblant d'avoir une appendicite alors qu'on l'a pas. Alors, oui.
Dans mon bouquin, je parle des fraudes aussi. Oui. Je pense que les fraudes arrangent tout le monde. Parce que les turiféraires de la sécurité sociale vont dire si la sécurité sociale est en déficit, c'est les fraudes, ils vont sortir dizaines de milliards de fraudes. Je pense que c'est...
Ils vont faire un Ségur de la santé grâce à ça.
Ouais. Et je pense que la fraude existe, mais que le meilleur moyen de lutter contre la fraude, c'est de responsabiliser les gens. Je prends mon assurance. Mon assurance me couvre en cas d'arrêt maladie. C'est moi qui la choisis. C'est ma cotisation. Je choisis mon assurance, des jours de carence, etc. Pour mon assurance maladie, c'est pareil. Je choisis ce qui est pris en charge, le niveau qui est pris en charge par mon compte épargne santé et mon assurance, et par mon assurance. Donc, c'est la responsabilité individuelle, la responsabilité personnelle qui joue pour la meilleure, pour la lutte contre la fraude. Parce que ce sont mes recettes, mes ressources. Je vais pas me frauder tout seul.
Oui, c'est ça, mais c'est ça. C'est l'aléa moral des allocations chômage ou des allocations d'assurance maladie.
Après, je pense
que
la fraude ruine la sécu, tout ça, je pense pas que ce soit juste. Je pense que certainement il y a de la fraude, mais je pense que le meilleur moyen de lutter contre la fraude, c'est de responsabiliser les gens et pas de contraindre et de mettre des lois ou des systèmes policiers davantage.
Avalanche d'interventions et de commentaires alors que nous allons bientôt clore cette émission. Alors, sujet intéressant mais abordé de manière très superficielle, nous dit cet auditeur. D'abord, la Sécu n'est pas l'étatisation d'un service assurantiel préexistant à travers les sociétés privées, comme vous l'avez dit en début d'émission, mais la mise en place d'une méthode de gestion socialisée d'un plan primordial de la vie des individus et donc de la société dans son ensemble. Premier impact sur les individus est beaucoup plus important qu'une simple mutualisation des coûts et des risques des assurés, tel que le fait une société d'assurance lambda, mais une redistribution de ses charges par le jeu des cotisations basées sur le revenu de l'affilié, plus quelques autres astuces. La Sécu participe donc d'une structure de la société et pas d'une simple gestion des dépenses de santé, etc.
Alors, je vais répondre là-dessus tout de suite.
Très vite.
Très vite, parce que monsieur n'a pas entendu tout à fait ce que j'ai dit au départ, parce que j'ai dit tout à fait au départ que la plupart des systèmes des livres à sécu le considéraient uniquement comme revenu matériel, et moi je considère que c'est un système absolument fonctionnel et sociétal. Donc ce monsieur a raison, mais j'en parle dans mon bouquin.
D'accord, très bien. Et une auditrice qui nous dit « Bonjour, sauf erreur, je n'ai pas entendu votre invité parler de la dette due à la France des soins reçus par des personnes venant d'autres pays qui viennent se faire soigner gracieusement chez nous. »
J'en parle dans mon bouquin.
Alors vous en parlez dans le livre, en effet, et c'est d'ailleurs très intéressant comme chapitre. Messieurs, nous dit cette autre auditrice, « Dommage que pour un sujet aussi important, votre émission soit aussi incompréhensible pour le commun des auditeurs. » Réécoutez-vous et vous pourrez le constater. Bon, alors je suis vraiment désolé. Si c'est le cas, on va se réécouter. Oui. Heureusement, il y a aussi des compliments. On a reçu beaucoup de compliments pour cette émission. Je remercie tout le monde, y compris ceux qui ne nous ont pas fait de compliments. Voilà. Quoi dire d'autre sinon, voilà, ce livre s'intitule « Pour rebâtir la sécu, laissez-nous faire proposition d'un médecin de famille » par le docteur Patrick de Casanove, qui était mon invité aujourd'hui. C'est aux éditions Liberté Numérique, ça fait 400 pages, ça coûte 20 euros, je crois. Voilà, livre très complet, à part sur la publicité, mais bon.
Alors, il y a des choses qui ont été traitées de manière plus générale pour ouvrir des portes, justement. Oui. Mais ces personnes, alors, 90 minutes, c'est vrai, c'est long, mais c'est très court pour résumer
évidemment,
le livre.
Oui.
Et pour résumer la pensée philosophique qui sous-tend, la preuve, c'est le monsieur qui n'avait pas tout à fait bien saisi sûr. Une phrase au départ. Je reconnais que je parle très vite et que certains éléments peuvent sauter,
oui.
Mais c'est beaucoup plus détaillé, beaucoup plus complet. Le problème sociétal, la Sécu dans son contexte, dans la société dans laquelle nous vivons, qui doit prendre en compte la totalité des facteurs.
Voilà, et donc, avec beaucoup de citations, comme je le disais, de Frédéric Bastiat. Merci à tous nos auditeurs, merci pour vos nombreuses questions et commentaires, merci à mon invité, donc Patrick de Casanove. Le thème de l'émission d'aujourd'hui était donc « Guérir la Sécu ou l'euthanasier ?» Et je remercie Benoît à la réalisation, je remercie le secrétariat et je vous donne rendez-vous pour notre prochaine émission qui aura lieu le 13 mai. D'ici là, restez à l'écoute de Radio Courtoisie.
Vous venez d'entendre le Libre Journal des économistes dirigé par Olivier Mérès, diffusé en direct sur Radio Courtoisie mercredi 15 avril 2026 de midi à 13h30 et réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix front de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.